Bonjour Margot Théry, alors vous nous présentez le cabaret des Indociles au théâtre des Clochards Célestes à Lyon. Sur scène, il y a Maud Gentien, Mathilde Saillant et Marine Simon. Ça parle de l'histoire d'un centre de rééducation de jeunes filles dans les années 50. Alors d'où vous est venue cette idée, cette envie de travailler là-dessus ?
Alors en fait, j'ai lu en 2019 à sa sortie un livre qui s'appelle Vagabonde voleuse vicieuse, de la libération à la libération sexuelle, qui a été écrit par Véronique Blanchard et qui est en fait une thèse d'histoire sur ce qu'on considérait comme les mauvaises filles dans les années 50. Donc j'ai lu ce premier livre avec énormément de fascination pour cette période, pour ces centres de rééducation de jeunes filles que je ne connaissais pas et surtout pour les ressources d'archives qu'elle insère dans son livre et qui sont extrêmement théâtrales à mon intuition. Enfin, il y a vraiment beaucoup de lettres de ces jeunes filles avec un langage extrêmement fort pour l'époque, je trouve, de la lucidité de leurs conditions qui m'a amenée à pousser plus dans les recherches d'archives et à surtout pousser la recherche de qu'est-ce qu'étaient ces centres, qu'est-ce qui se passait à l'intérieur. Et c'est pour ça que j'ai eu envie d'écrire là-dessus.
Donc, c'est vous qui avez tout écrit ?
Alors, je suis partie d'archives ouais. et donc parfois, il y a des vrais morceaux d'archives dans le spectacle. Et sinon, après, j'ai écrit les scènes et j'ai tricoté autour, en effet.
D'accord. Est-ce que ces trois jeunes filles ont existé ou vous avez créé une histoire à partir des différents exemples que vous aviez ?
Alors non, ces trois jeunes filles n'ont pas existé. C'est justement trois personnages que j'ai inventés moi en leur insérant pas mal de petits morceaux d'archives ou de ce que j'ai trouvé justement de ces jeunes filles, mais dans ces trois personnages complètement inventés. En revanche, Marguerite, dont on parle dans le spectacle, qui n'est pas sur scène mais dont on parle, a été une vraie pupille qui s'est vraiment suicidée dans sa cellule à 19 ans, 2 mois avant sa sortie. Et il y a un livre qui a été écrit sur elle qui s'appelle Marguerite B, une jeune fille en maison de correction de Béatrice Koeppel, qui m'a aussi beaucoup inspirée sur cette période.
Alors, on parle beaucoup de féminisme en ce moment, du mouvement MeToo, etc. Et pourtant, vous décidez de replacer cette pièce dans un contexte historique, les années 50. On peut dire que c'est un peu les racines du mal, entre guillemets, en ce qui concerne la femme et son corps.
Oui, c'est ça. Je pense que ça a toujours existé.
Je précise, en termes peut-être religieux, psychiatriques, voilà.
Oui, en tout cas, c'était le début des années 50. C'est le début, en effet, des théories psychiatriques sur le corps de la femme. Mais c'est surtout, moi, j'ai décidé, de m'arrêter aux années 50 et de parler des années 50, parce que justement ce qui m'intéressait c'était de mettre en lumière 70 ans après justement les évolutions qui ont été opérées, parce que quand même aujourd'hui on a plus de centres de cette teneur là avec ce genre de discours là sur les femmes, heureusement, mais aussi ça fait quand même écho à pas mal de choses qui subsistent encore aujourd'hui. C'est vraiment ce qui m'intéressait, c'était comment en s'ancrant dans une histoire des années 50, ça pouvait nous faire énormément d'écho sur ce qu'il y a encore comme chemin à parcourir aujourd'hui, tout en étant quand même heureux des progressions qui ont été faites.
Et c'est réussi, on peut le dire.
Oui, très réussi. Alors justement, c'est vraiment très dense. Quand on sort, on est un peu groggy, on a du mal à s'en remettre, il y a beaucoup de choses. Et il y a un déploiement d'énergie des trois comédiennes et de force qui est assez phénoménal. Alors peut-être revenir au début de la pièce. Donc d'abord, c'est Adèle qui est dans un tribunal. Et donc on comprend qu'elle a a priori été violée, ou en tout cas, elle a eu un rapport non consenti. Et pourtant, le verdict, ça va être de l'envoyer, elle, dans ce centre de correction, de rééducation pour jeunes filles.
Exactement. Donc la pièce s'ouvre sur cette première scène. Et en fait, c'est une archive que j'ai retrouvée aussi, alors que j'ai un peu réécrite. Mais en tout cas, la déposition de la jeune fille et la déposition du jeune homme sont des archives. Et cette jeune fille, qui ne s'appelle pas Adèle dans la vraie vie, on va dire, a vraiment été placée en centre de rééducation. Et en revanche, le jeune homme n'a rien eu du tout. Donc là, pour le coup, ça parle d'un vrai témoignage.
Et donc du coup, elle arrive dans ce centre et là, elle découvre comment ça se déroule, comment ça se passe. Et effectivement, quand on voit ça, ça ressemble effectivement plus à un centre fermé, voire une prison, plutôt qu'à une sorte de collège ou de lycée qui pourrait aider les jeunes filles à aller mieux, on va dire.
Ah oui, exactement. Enfin, c'était un peu une des choses qui m'a le plus étonnée en lisant toutes ces recherches. C'est qu'ils appellent ça institution publique d'éducation, surveillée quand même, ils ont eu la décence de mettre le mot surveiller pour quand même nous montrer l'aspect carcéral. Et en fait, donc oui, il y avait une volonté d'éducation, une volonté vraiment... ça partait d'un bon sentiment, on va dire. Pardon, je fais des guillemets, mais ça s'entend pas du coup. Alors qu'en fait, en effet, ces lieux-là ressemblaient énormément à des prisons et étaient extrêmement contraints avec la moralité religieuse de l'époque.
Alors l'idée, c'est justement dans ces institutions de brider un peu les natures, comme ça, l'énergie, l'âme.
Bah, vraiment, dans tout ce que j'ai trouvé, l'idée, en effet, c'était vraiment un peu comme le dernier discours de l'éducatrice dans la pièce, c'est vraiment toujours occuper les filles pour qu'elles n'aient absolument pas le temps de, ni de penser, ni de rêver, parce que c'est à partir du moment où elles ont quelques secondes à elles qu'elles peuvent s'adonner à des rêveries vicieuses, à des désirs d'évasion et ce genre de choses. Donc il y avait vraiment des emplois du temps hyper millimétrés. Chaque seconde était remplie par une tâche. Il y avait vraiment une volonté de rééducation rude et sans place, en effet, à la rêverie. Ou...
Avec beaucoup de lois, mais vous montrez, j'imagine que c'est un choix de votre part, qu'il y a aussi beaucoup de liberté au sein de ce carcan.
Alors, c'est qu'en fait, moi, du coup...
D'où le titre cabaret.
Oui, exactement. En fait, moi, j'ai décidé, parce que en lisant quand même les archives, c'est plutôt... On n'est pas dans un grand sourire permanent. Et j'ai voulu montrer à l'intérieur justement de la sévérité, de l'amorosité de ces lieux. J'ai voulu rendre hommage en fait à la joie de vivre de ces jeunes femmes et de me dire qu'il y a forcément du rêve, il y a forcément du ludique pour survivre à l'intérieur de tout ça. Et ce qui m'intéressait, c'était de mettre en lumière voilà, cette sororité, cette joie qui les fait tenir au milieu de ces centres qui ne sont pas drôles pour le coup.
Oui, c'est ce que j'allais dire, il y a vraiment une sororité qu'on sent. Et quelque part, on peut imaginer que sans cette sororité, il y en aurait peut-être beaucoup plus qui se seraient suicidés, par exemple. C'est évident que c'est le seul moment de liberté qu'elles ont, c'est de pouvoir échanger entre elles.
C'est ça, exactement. Et nous, dans la pièce, on a beaucoup accès à leurs échanges, mais c'est vrai que ça, c'est beaucoup de choses que j'ai inventées moi, parce que justement, dans ce qu'on lit des archives, on a vraiment la phrase « le silence est roi », je pense qu'on l'a dans tout, et justement, il n'y avait pas le droit de bavarder, enfin, c'était vraiment puni si elles bavardaient, donc je pense que les espaces d'échange devaient être précieux entre elles quand elles arrivaient à en avoir, en effet.
Et alors, une mise en scène qui est, enfin, moi je trouve, assez intelligente. Ce qu'on a devant nous, là, c'est trois, finalement, cases avec des lits de l'époque. Et il y a tout un jeu de lumière. Vous les faites s'intervertir dans leur rôle. On passe de bourreau à victime. Finalement, c'est assez plein. Puis ça part un moment dans le cabaret. Enfin, c'est en ébullition dans votre tête, non?
Oui. Il y a beaucoup de choses. Mais en effet, c'est vrai qu'au début, je pensais même peut-être à de la voix off pour ces institutions. Mmh. Et en fait, à y réfléchir dès le début des répétitions, je me suis dit que c'était hyper intéressant que les jeunes filles jouent les institutions. Et puis même, ça nous donne... aussi l'impression qu'en fait tout ceci n'est un grand jeu et qu'elles enfilent les costumes pour en fait nous raconter leur histoire en imitant elles-mêmes les institutions. Enfin, on s'est aussi dit qu'il y avait cette double lecture-là possible qui nous intéressait. Et oui, il y a beaucoup de choses, mais parce que je me suis dit que justement avec ce sujet qui peut paraître rude quand on dit « Ok, on va avoir un spectacle sur les mauvaises filles dans les années 50 dans des centres de rééducation », enfin c'est un peu lourd. Et je crois que le théâtre peut être puissant sans être complètement morose. Et que j'avoue que j'aime beaucoup la musique, les couleurs et que voilà... Bah, je trouvais ça intéressant de pouvoir aussi prendre le contre-pied de cette morosité et par exemple, oui, détourner des propos que je trouve odieux en chanson cabaret parce que c'est quand même vachement plus drôle.
Effectivement, il y a de l'humour, il y a de la chanson. Et alors peut-être revenir sur un mot qui m'a marqué, c'est par exemple au début de la pièce quand on dit « la jeune fille doit retrouver sa vocation féminine ». Évidemment, on voit qu'il y a aussi deux jeunes filles qui tombent amoureuses et on suppose que effectivement c'est forcément un comportement déviant pour eux. Voilà, les mauvaises filles, effectivement, ça parle de la façon dont les femmes sont vues à l'époque et la psychiatrie, quelque part, c'est elle qui décide de comment elles doivent se comporter et il n'y a aucune place à l'imagination. De la jeune fille.
Oui, puis c'est même pas que la psychiatrie, c'est vraiment la société qui considère que ces jeunes filles sont mauvaises à partir du moment où elles ne rentrent pas à l'heure dite chez elles, à partir du moment où elles vont boire un café en terrasse. Enfin, c'est aussi l'évolution qui m'intéressait, c'est de me dire que toutes ces jeunes filles qui étaient considérées comme mauvaises dans les années 50, aujourd'hui ce seraient juste des adolescentes normales à qui on ne ferait aucune réprimande.
On parle beaucoup de brider donc une nature, mais alors vous parlez des femmes ici. Je me suis senti bien sûr touché par ce message, mais en tant qu'homme, je me suis dit aussi que cette façon de brider la nature, on l'a retrouvée également dans les institutions actuelles, la politique, les religions, et aussi pour les hommes en fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Le fait de brider une nature en quelque sorte, en spiritualité on parlerait de faire un travail sur soi et de saper l'âme charnelle par exemple. Ce que je veux dire c'est que c'est universel en fait. C'est...
Ah, là oui, on parle des femmes. Mais, ouais. Oui, c'est universel. Après moi c'est vrai que ça me tenait à cœur de parler de ces jeunes femmes. Et de parler des femmes en priorité.
Oui,
c'est
sûr.
Vrai.
Vous vous sentez féministe intérieurement?
Complètement. Bah, je crois que ça se voit avec le spectacle. Mais oui, complètement, oui.
Okay. Merci beaucoup, Margot Théry.
Merci beaucoup.